Chapitre 8. Sainte Thérèse d'Avila. Foi, action et contemplation. Le portrait de Fray Juan. En 1970, pour la première fois, une femme était proclamée docteur de l'Église. Il s'agissait de Sainte Thérèse d'Avila, que le pape Benoît XVI a décrit comme l'un des plus hauts exemples de la spiritualité chrétienne de tous les temps. Teresa de Cepeda y Ahumada, qui fut contemporaine de saint Thomas More, était une femme douée d'une personnalité remarquable qui ne laissait personne indifférent. À travers les témoignages qui nous sont parvenus, et surtout à travers ses écrits, se révèle une figure particulièrement attachante par ses dons, par son caractère enjoué et fort à la fois par sa bonne humeur qui ne la quittait pas, même dans les circonstances les plus difficiles. Et l'on donnerait bien des ducutados pour avoir d'elle un portrait fidèle et pouvoir la connaître, si cela était possible, telle qu'elle était. L'on possède effectivement un portrait de la sainte que son supérieur d'alors, le père Geronimo Gracian, fit peindre par un brave moine, l'un des premiers carmes déchaux, frère Juan de la Miserias. Thérèse, qui avait horreur de cela, s'y soumit avec obéissance, se résignant à ne pas bouger ni la tête ni les yeux, à tenir les mains jointes à la hauteur des épaules, ce qui, on peut l'imaginer, était au-dessus de ses forces. Et quand frère Juan eut terminé, Thérèse regarda le tableau et s'exclama avec son naturel et son sens de l'humour à la fois taquin et affectueux « Que Dieu te pardonne, frère Jean, car non seulement tu m'as peinte, mais en plus tu m'as peinte laide et malheureuse. » À la décharge de frère Juan, il faut reconnaître que dresser un portrait de sainte Thérèse n'était pas chose facile, tant sa personnalité était riche et nombreux les admirables traits de son caractère. Son charme d'abord et la sympathie qu'elle inspirait. L'austère frère Louis de Léon rapporte que d'après ceux qu'il avait connus quand elle était encore enfant ou jeune fille, elle faisait perdre la tête à quiconque l'approchait. Sa beauté et le soin qu'elle avait de sa personne, la finesse de sa conversation, la douceur et l'honnêteté de ses manières l'embellissaient encore, de sorte que le profane et le saint, le mondane et l'ascète, des plus âgés aux plus jeunes, étaient faits prisonniers, captivés par elle, sans qu'elle perdît rien de ce qu'elle se devait à elle-même. Elle fut pour tous ceux qui la voyaient ce que l'aimant est pour le faire. Ce même charme continua de s'exercer durant toute sa vie, même quand elle se fit religieuse, et quand, plus tard, dans des conditions particulièrement difficiles, elle sillonna l'Espagne pour ouvrir des couvents, selon la réforme qu'elle avait promue. Sa gaieté enchantait. Elle n'hésitait pas, à l'heure de la récréation, à saisir tambourins et castagnettes pour distraire et réjouir ses filles spirituelles. « Que Dieu me délivre des saints encapuchonnés, » disait-elle. Ceux qui la voyaient et qui étaient au courant de sa plus haute sainteté et des grâces qu'elle recevait de Dieu, écrit son premier biographe, le jésuite Ribera, s'étonnaient qu'elle puisse parler aux hommes comme si elle n'eût rien de cela, avec allégresse, avec amour, nullement austère ou renfrognée, et avec une si douce et agréable liberté. Cela peut donner une idée du charme que Thérèse de Ahumada exerçait sur ceux qui l'approchaient. Mais le portrait n'est pas encore fidèle, car il faudrait encore peindre son tempérament passionné, sa force d'âme, son caractère ferme et décidé, le courage et la détermination dont elle faisait preuve pour mener à bien ce qu'elle entreprenait. Un jour, elle n'avait que 7 ans, elle réussit à convaincre son frère Rodrigo, de 4 ans plus âgé qu'elle, de la suivre au pays des morts pour y subir le martyre. Elle était fascinée par l'idée de l'éternité du bonheur du ciel. « Pour toujours, pour toujours, pour toujours !» répétait-elle à son frère qui se fatiguait en chemin. Les deux enfants rencontrèrent finalement un oncle à la sortie d'Avila, qui les ramena à la maison. Quelques années plus tard, elle avait alors 20 ans, c'est son autre frère, Antonio, qu'elle convainquit de s'enfuir avec elle de la maison paternelle pour rentrer comme elle au couvent. Son père, qui s'était opposé à leur vocation, désespéré, essaya de faire pression auprès de la supérieure, auprès d'elle, auprès de son frère. Mais il finit par céder et il ne manqua pas, par la suite, de soutenir sa fille dans des moments difficiles. Et cependant, ce caractère ferme et déterminé était très humain. Elle connut la fragilité et la faiblesse, la tiédeur spirituelle et le relâchement. Si dès son enfance, Thérèse a rêvé d'un don total, il est certain qu'elle n'y est pas arrivée d'emblée. Ce fut d'abord la passion pour les romans de chevalerie, qu'elle lisait en cachette contre la volonté de son père, qui la captiva dans son adolescence. Lecture légère, mêlant le frivole et l'héroïque, qui l'entraînèrent à la vanité, au goût de plaire, consciente comme elle l'était d'être au centre de l'attention de ses cousins et cousines, surtout de ses cousins. « J'ai commencé à porter de beaux habits et à vouloir paraître élégante. Je soignais mes mains, ma coiffure et mes parfums et toutes les vanités de cet âge. Et elles étaient nombreuses, car ma recherche allait fort loin. J'avais quelques cousins germains. Ils étaient à peu près de mon âge, un peu plus vieux que moi. Nous étions toujours ensemble. Ils m'aimaient beaucoup et chaque fois que quelque chose les rendait heureux, nous discutions et j'écoutais leur joie et leurs enfantillages. Tout le mal me vint d'une parente qui venait souvent chez nous. Elle était des plus légères. Je me trouvais fréquemment en sa compagnie pour bavarder, car elle m'aidait dans toutes les idées de divertissement qui me venaient à l'esprit, et m'en proposait même d'autres. Elle me faisait également part de ses fréquentations et de ses frivolités. Ses vanités et légèretés estompèrent les désirs de sainteté de son enfance, au point que son père décida de la mettre en pension chez des religieuses augustines pour la protéger des mauvaises influences. Thérèse s'y plia de mauvais gré, supportant mal le manque de liberté. « J'étais extrêmement réfractaire à la possibilité de devenir religieuse, » écrit-elle. La vie au couvent lui était fastidieuse. Ses adorateurs lui envoyaient des billets. Mais finalement, le séjour lui fit du bien. Le bon exemple de certaines religieuses, l'éloignement des mondanités, la lecture de bons livres, réveillèrent en elle les grands désirs de son enfance, et elle commença à envisager d'entrer au couvent. Elle entra finalement, à l'âge de 20 ans, dans un couvent de carmélites à Avila, en surmontant, comme on l'a vu, la résistance de son père. Mais là encore, tout ne fut pas facile. Au couvent vivaient près de 180 religieuses. Elle dira plus tard que, quand plus de 40 femmes vivent ensemble, tout n'est que tumulte et agitation, et elles se gênent les unes les autres. Bien qu'il ne fût pas l'un des couvents les plus relâchés d'Espagne, la discipline s'accommodait de mille compromis. On y vivait de manière mondaine. On n'observait ni le silence ni les jeûnes. On se parait de bijoux. Et surtout, on passait des heures au parloir avec les gentilshommes dévots qui venaient s'entretenir avec les moniales de sujets spirituels. La chose était considérée normale, malgré les dangers évidents que cela supposait. Thérèse, qui ne réussissait que trop bien dans cet apostolat, s'y laissera prendre avec un petit fond de mauvaise conscience, mais sans vraiment ouvrir les yeux, faute d'un guide spirituel assuré. Elle aura toujours devant ses yeux ces années de tiédeur et de relâchement qui la menèrent à négliger la prière et qu'elle regrettera amèrement. Et puis un jour, alors qu'elle était entrée au couvent depuis déjà 17 ans, la vue d'une représentation du Christ couvert de plaies la foudroya littéralement. Son cœur fondit, l'amour de son enfance se réveilla, puissant et bienfaisant. Elle coupa net à ses habitudes relâchées, reprit la pratique de la prière pour ne plus l'abandonner et n'eut plus à cœur que de travailler à la réforme du Carmel. Animée par un amour ardent de Dieu et un zèle que rien n'arrêtait, elle y consacra toutes ses énergies avec une détermination et une ténacité à peine croyables, affrontant toutes sortes d'oppositions et d'obstacles, en apportant avec elle toujours son courage et son enthousiasme, son sens de l'humour et son charme intact. L'épopée des fondations. C'est ainsi qu'en surmontant toutes sortes de difficultés, elle fonda d'abord un monastère à Avila, où l'on vivrait la règle primitive dans toute sa rigueur. Puis elle entreprit un périple à travers l'Espagne pour ouvrir des couvents semblables. Elle voyageait avec 3 ou 4 compagnes, parfois plus, au fond de chariots pesants, fermés par des toiles tendues, avançant par des chemins délabrés sous le soleil impitoyable de Castille ou sous la neige hivernale qui tombait toute la journée. Elle gardait toujours son sang-froid, encourageant tout le monde, frôlant plusieurs fois la mort. Une petite équipe d'ecclésiastiques montés sur des mules les accompagnait et quelques conducteurs de chariots les escortaient. Les haltes dans des auberges inconfortables et malsaines, plus tard elle comparera la vie sur terre à une mauvaise nuit dans une mauvaise auberge, les minuscules maisons délabrées et inadaptées qu'elle trouvait pour installer le couvent, où les conditions de vie étaient plus que précaires. Tout cela, la mère Thérèse de Jésus le raconte dans Les Fondations, avec vivacité et humour, dans un style littéraire magnifique et savoureux qui font d'elle l'un des auteurs les plus importants de la littérature castillane. Nous avions été en difficulté à la traversée en bac du Guadalquivir. On ne put passer nos chariots là où les câbles étaient tendus, mais en biais, en nous aidant un peu du câble, que nous biaisons également. Ceux qui le tenaient le lâchèrent, ou je ne sais ce qui se passa, mais le bac qui portait le chariot partit à la dérive sans câble ni rame. L'affliction du passeur m'apitoyait plus que ne me troublait le danger. Nous en prière, tous les autres poussaient de grands cris. Un gentilhomme nous regardait d'un château voisin. Il s'émut de compassion et envoya quelqu'un à notre aide. À ce moment-là, nous tenions encore le câble, c'est-à-dire que nos frères s'y accrochaient de toute leur force. Mais la force de l'eau les entraînait tous et en jetait à terre quelques-uns. Mais Sa Majesté ne nous met à l'épreuve qu'avec pitié. Il en fut ainsi cette fois-là. Le bac s'échoua sur un banc de sable, l'eau était basse d'un côté, cela nous tira d'affaire. Une autre fois, lors d'un voyage à Burgos, les chariots s'enlisaient fréquemment dans la boue. Il fallait dételer les bêtes d'un chariot pour aider à tirer l'autre de l'ornière. Quand nous vîmes que nous entrions dans un monde d'eau, sans chemin ni barque, je ne pus m'empêcher d'avoir peur, malgré tout ce que le Seigneur m'avait dit pour me donner du courage. C'est à cette occasion qu'eut lieu ce dialogue étonnant et sympathique. « Seigneur, au milieu de tant de mots, celui-ci vient à point !» s'exclama-t-elle. Le Seigneur lui répondit. Thérèse, c'est ainsi que je traite mes amis. » À quoi la sainte de répondre avec son franc parler « Ah, mon Dieu, c'est pourquoi vous en avez si peu !» On la prenait pour folle ou dépravée. Le nonce l'avait qualifiée avec mépris de femme agitée et vagabonde. On murmurait que, sous prétexte de fondation, elle amenait des jeunes filles de ville en ville pour... On envisagea même de l'enfermer dans un couvent en Amérique. C'est ainsi que, poussée par son ardent amour du Christ, malgré les menaces, les calomnies, les condamnations, les difficultés de toutes sortes, elle fonda des couvents à Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Tolède, Pastrana, Salamanque, Alba de Tormes, Veas, Almodóvar del Campo, Séville, Caravaca, Villanueva, Burgos, Grenade. Elle aura parcouru, dans ces conditions si difficiles, quelques 8000 kilomètres par toute l'Espagne. Véritable épopée, comparable par certains aspects à celle qu'avait réalisée saint Paul au début de l'ère chrétienne. Sa vie mystique. Ces quelques traits nous donnent une idée de la personnalité de Thérèse d'Avila. Il faudrait y joindre la maladie et les souffrances physiques qui l'accompagneront durant toute sa vie. Le soin de la formation de ses sœurs, les heures passées à la lumière d'un bout de chandelle pour rédiger ses souvenirs et ses enseignements, comme ses supérieurs le lui avaient commandé. Avec ces traits, on pourrait déjà peindre un portrait de la mère Thérèse de Jésus. Mais si on se limitait à cela, on resterait encore très en deçà de la réalité. Car ce qu'il y a de plus extraordinaire et de plus important chez elle, est l'itinéraire de sa vie de prière et de contemplation mystique par lequel le Seigneur voulut la conduire. Itinéraire qu'elle nous a laissé dans ses écrits, en particulier dans sa vie, le chemin de la perfection, et surtout le château intérieur, véritable chef-d'œuvre de la spiritualité chrétienne et de la théologie mystique, parmi les plus importants que le génie chrétien ait produit. Ils lui ont valu le titre de docteur de l'Église, alors que dans son humilité, elle était convaincue de son incapacité, s'estimant une faible femme sans culture et sans formation. C'est une lecture fascinante, dit Benoît XVI, parce que la sainte non seulement expose, mais revit et met devant nos yeux l'expérience profonde de sa relation avec Dieu. Elle raconte avec une sûreté et un talent exceptionnel les différents états mystiques par lesquels le Seigneur la conduisit et se fit voir et entendre d'elle, lui découvrant de merveilleux rivages inexplorés. Avec une clarté et une netteté impressionnantes, elle parvient à préciser et à décrire les extases, les visions, les locutions divines, les distinguant avec lucidité des illusions et des représentations de l'imagination, des pièges du sentiment et de la sensibilité, voire des états maladifs ou des tentations du démon. Il n'est pas exagéré de dire qu'en lisant ses écrits, l'on est saisi plus d'une fois par le sentiment profond du sacré. L'on pressent que le surnaturel est très proche et qu'un horizon insoupçonné se dévoile ici et là par des traits lumineux. Elle a soin cependant de nous dire et répéter que ces phénomènes mystiques ne sont pas essentiels. Elle les considère même comme des grâces que le Seigneur lui a réservées à cause de son indignité, pour soutenir dans sa faiblesse causée par ses nombreux péchés. Et elle explique que ce qui est essentiel est que l'on apprenne à faire oraison d'une manière très simple, à se réserver chaque jour un moment pour la prière et à ne jamais la négliger, sous aucun prétexte. Quand elle mourut en 1582 à l'âge de 67 ans, elle avait entraîné à sa suite dans les voies de l'oraison une multitude d'âmes, ses disciples, des prêtres, des religieux et des évêques, des gens du monde. Aujourd'hui encore, son influence est toujours si grande et fascinante. La prière dans la vie de Sainte Thérèse. Toutes les étapes, tous les moments décisifs de la vie de Sainte Thérèse sont marqués par la découverte et l'approfondissement de la vie de prière. Lors de son adolescence, ce fut par la lecture des épîtres de Saint Jérôme que la voix de Dieu commença à résonner dans son cœur. C'était à l'époque où elle résidait, avec tant de réticence, dans le pensionnat des religieuses augustines. Un jour, elle tomba malade et on dut la reconduire à la maison paternelle. En chemin, on fit étape chez l'un de ses oncles. C'était un homme très pieux et qui possédait sans doute beaucoup de bon sens, car on peut penser qu'il comprit le fond de son âme. Il me demanda de lui faire la lecture, raconte-t-elle, et quoique ses livres n'eussent pas grand attrait pour moi, je faisais mine d'y prendre de l'intérêt. Peu à peu, cependant, grâce à la pression qu'exerçaient sur mon âme les paroles de Dieu, j'en vins à pénétrer cette vérité qui m'avait frappée quand j'étais petite. Tout n'est rien. Le monde est vanité et il passe vite. Ce contact avec la voix de Dieu, qui s'introduisait délicatement dans son âme, la décida finalement à surmonter ses réticences et à embrasser la vie religieuse. Plus tard, peu après son entrée au couvent des Carmélites, Thérèse tomba à nouveau malade, cette fois gravement. Des angoisses et inquiétudes tenaillaient son âme. Elle avait l'impression de ne pas être à la hauteur. Faute d'un bon directeur spirituel, son amour ardent et passionné l'entraînait au-delà de ce que raisonnablement elle pouvait donner physiquement et spirituellement. À cette occasion, lors de sa convalescence, elle revit son oncle qui lui avait déjà fait tant de bien. Elle lui ouvrit son âme, lui fit part de ses inquiétudes, de ses découragements. « Alors, raconte-t-elle, mon oncle me fit présent d'un livre intitulé « Le troisième abécédaire ». C'était un traité de l'oraison de recueillement. J'avais lu beaucoup de bons livres, et pourtant je ne savais pas encore comment m'y prendre pour faire oraison et me recueillir. Ce livre me fit donc grand plaisir, et je me résolus de suivre de toutes mes forces la voie qu'il m'ouvrait. Enfin, c'est à nouveau par la prière que put s'opérer en elle la conversion définitive. Au couvent où, comme on l'a vu, on vivait la règle d'une manière relâchée, Thérèse s'enlisait dans la tiédeur, consciente que le Seigneur l'appelait à autre chose qu'elle ne savait pas lui donner. Aussi se sentait-elle indigne de prier, et, de ce fait, elle avait fini par abandonner la prière. Quand elle eut l'occasion de contempler la sculpture du Christ couvert de plaies, elle se décida à changer de vie, mais elle ne savait pas comment y parvenir. Cette fois, elle eut la chance de se confier à un père dominicain, le père Vincente Baron, qui, parmi d'autres conseils très précis, lui expliqua que le plus important et absolument essentiel était de ne jamais abandonner l'oraison mentale. C'était là le chemin par lequel elle arriverait à la sainteté. 20 ans s'étaient déjà écoulés depuis le jour où, faisant la lecture à son oncle, Dieu avait frappé à la porte de son cœur. Cette fois-ci, la résolution était prise pour toujours. La prière l'accompagna toute sa vie. C'est la prière qui soutint ses forces, qui lui ouvrit des horizons, qui la maintint dans cette relation intime avec Dieu, sans laquelle rien n'aurait été possible dans sa vie. La nécessité de la prière dans la vie chrétienne. La prière est la respiration de l'âme. Elle est aussi importante que l'air que l'on respire. Elle est comme la sève pour la plante. Elle est aussi nécessaire que le cœur qui bat et qui ne peut s'arrêter sans que la vie s'en aille. Le Christ lui-même nous a appris par son exemple l'importance de la prière. Il était un constant dialogue avec son Père. La prière marquait chacun de ses actes. Il passa 40 jours en prière au désert avant le début de son ministère public. Il priait à la synagogue et dans le temple. Il s'adressait à Dieu avant d'accomplir les miracles. Il pria intensément avant de choisir ses apôtres. Parfois, il passait des nuits entières en prière. Il montait sur une colline une fois la journée terminée, et là, pendant que les lumières de la ville s'éteignaient une à une, il élevait son cœur vers Dieu, son Père. Les disciples étaient étonnés. Un jour, ils le suivirent timidement, et lorsque le Seigneur eut terminé, ils lui demandèrent « Maître, enseigne-nous à prier. » Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». Et comment ne pas penser au moment de la passion à Gethsémani où il demande aux disciples de l'accompagner. Leurs yeux se fermaient sous l'effet du soleil pendant qu'il priait et des gouttes de sang perlaient son visage. Et il priera encore sur la croix jusqu'au dernier instant de sa vie. La prière n'est pas réservée à une élite, comme s'il y avait des âmes qui y sont appelées et d'autres qui peuvent s'en passer. L'appel à l'oraison est aussi universel que l'appel à la sainteté, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et puisque nous sommes tous appelés à la sainteté, tous sans exception, nous sommes appelés à la vie de prière. C'est ainsi que le Seigneur a réservé la révélation la plus profonde sur la prière. La prière agréable à Dieu est la prière en esprit et vérité, c'est-à-dire le culte véritable fondé sur la personne du Christ. À une pécheresse, une samaritaine qui était venue puiser l'eau au puits de Sichar. Pensez, comme cela arrive souvent, que cela n'est pas pour moi, c'est bon pour des personnes plus saintes ou plus meilleures que moi, est contraire à l'Évangile. Se dire cela procède plus de la paresse spirituelle que d'une véritable conscience de sa propre indignité. La prière est essentielle pour la vie chrétienne. Impossible de s'élever spirituellement si l'on ne prie pas. Impossible de progresser dans la vertu sans une vie de prière. La raison de tant de résolutions inaccomplies, de tant de légèreté, de tant d'élan qui retombe, n'est pas à chercher ailleurs. Et il est tout à fait illusoire d'attendre des fruits des œuvres apostoliques qui ne s'appuient pas sur une vie de prière intense. Comme le montre l'échec de cet activisme sans vie de prière qui, de temps en temps, tente certains milieux qui ne manquent pourtant pas de bonne volonté. Une nouvelle évangélisation, une église qui évangélise, doit toujours partir de la prière, de la demande, comme les apôtres au Cénacle, du feu du Saint-Esprit. Seul le rapport fidèle et intense avec Dieu permet de sortir de ses propres fermetures et d'annoncer avec parousie l'Évangile. Sans la prière, notre action devient vide et notre annonce est sans âme et n'est pas animée de l'Esprit. Pape François, Audience générale du 22 mai 2013. Qu'est-ce que prier ? Thérèse apprit dans le livre qui lui avait été offert par son oncle qu'il y a plusieurs manières de prier. En plus de la prière vocale, qui consiste à réciter des formules telles que le « Je vous salue Marie », le « Notre Père » ou des psaumes, par exemple, il y a aussi une prière sans parole. On laisse le cœur parler à notre Seigneur, on lui confie ses soucis, ses projets. Ces moments d'intimité avec le Seigneur sont indispensables pour construire l'édifice de la sainteté. Il ne s'agit pas de chercher de belles formules, des réflexions très élevées ou des émotions. Ce qui compte est de parler avec Dieu, avec simplicité, comme on parle à un ami, à un père. Tu m'as écrit, prier c'est parler avec Dieu, mais de quoi? De quoi? De lui, de toi, joie, tristesse, succès et défaite, nobles ambitions, soucis quotidiens, faiblesses, actions de grâce et demandes, amour et réparation. En deux mots, le connaître et te connaître, se fréquenter. Saint José Maria Escrivá, le chemin numéro 91. Il est indispensable de réserver chaque jour un temps précis à l'oraison mentale. Se recueillir, chercher Dieu en soi et lui parler. 10 ou 15 minutes par jour suffisent en général, du moins au début. Et si l'on y réfléchit, cela n'est pas grand-chose. Je n'oublierai pas ce qu'on m'a dit un jour un ami il y a longtemps, quand je lui opposais que trouver un quart d'heure pour prier chaque jour, c'est beaucoup. 5 minutes pourraient suffire, je disais. Beaucoup, me dit-il. Il sortit un mètre de sa poche. Il était ingénieur et il en avait toujours un. Il le déploya et il marqua avec le pouce et l'index le premier centimètre. Tu vois, ajouta-t-il, un quart d'heure dans une journée, c'est comme 1 centimètre dans 1 mètre. Et effectivement, il y a 96 quarts d'heure dans une journée. Argument d'ingénieur. Et il me dit quelque chose que j'ai retrouvé avec plaisir dans le livre de Jacques Philippe. 5 minutes, c'est ce qu'on accorde à quelqu'un dont on veut se débarrasser. La persévérance dans la prière. Pour progresser vers la sainteté, il est absolument nécessaire de ne jamais abandonner l'oraison mentale. Que l'on en ait envie ou pas, que l'on ait du temps ou que l'on soit très occupé. Sainte Thérèse d'Avila insistait particulièrement sur cela. Je ne dis pas d'être exempte de toute offense à Dieu, de tout péché. Je sais que nous sommes fragiles. Ce que je recommande surtout, c'est qu'on n'abandonne pas l'oraison. Par elle, on comprend ce que l'on fait. On obtient de Dieu le repentir de ses fautes et la force de se relever. Et elle disait qu'elle garantissait la sainteté à celui qui, chaque jour, réserve un moment pour la prière mentale. Une tentation fréquente est d'abandonner la prière parce qu'elle est devenue aride et sèche, ou parce que l'on se distrait souvent, ou parce que l'on a l'impression qu'elle ne nous sert à rien. En fait, ces moments dans lesquels on a perdu le goût de la prière sont particulièrement importants dans le chemin de la vie spirituelle. C'est même là une étape nécessaire. Le Seigneur la permet pour nous approcher de lui. En étant fidèle à l'oraison dans ces périodes d'aridité, l'âme se fortifie dans la foi et dans l'espérance, et aussi dans la charité. La persévérance est la meilleure preuve que c'est le Seigneur que l'on cherche, et non pas les émotions et les consolations. Le père Jacques Philippe va jusqu'à dire avec beaucoup de justesse que dans l'oraison, la fidélité compte plus que la qualité. Ce qui importe d'abord, ce n'est pas que la prière soit belle et réussie, riche de pensées et sentiments profonds, mais qu'elle soit persévérante et fidèle. Si je puis m'exprimer ainsi, il ne faut pas viser d'abord à la qualité de la prière. Il faut viser avant tout à la fidélité dans la prière. La qualité sera un fruit de la fidélité. Mieux vaut une prière pauvre mais régulière et fidèle que des moments de prière sublimes mais épisodiques. L'on ne doit pas abandonner l'oraison si l'on se sent indigne de prier à cause de ses faiblesses et de ses fautes. Comme le prouve l'exemple de la sainte d'Avila, c'est justement le moment d'être fidèle à la prière. C'est dans ces circonstances qu'on en a le plus besoin. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Marc 2:17. Le progrès dans l'oraison. L'oraison mentale peut acquérir aussi une forme très dépouillée, un simple regard posé sur Dieu, dans le plus intime de l'âme, sans l'aide de concepts ou d'images, dans une union de sentiments, d'intentions, de volontés. Sainte Thérèse appelle oraison de recueillement ce type de prière. L'évolution vers cette forme de prière a quelque chose de déroutant, car après une période au début pendant laquelle on s'y sent porté, l'on ressent une sorte d'aridité, une incapacité à méditer sur un sujet précis, à produire des considérations et des actes d'amour, une propension à rester plutôt sans rien faire devant Dieu. Si bien que l'on peut penser que l'on recule dans la vie intérieure. Mais, en fait, ce dépouillement est un don de Dieu, et il faut le prendre tel quel. Car tout ce qui est simple, et surtout dans les voies de l'amour, est en général un progrès. Il ne s'agit pas cependant d'un état mystique extraordinaire. C'est un chemin normal, une évolution qui s'opère progressivement, fruit de l'intimité croissante qui s'opère entre l'âme et Dieu. C'est un peu la même chose qui se passe entre deux personnes qui s'aiment et qui sont bien ensemble, sans besoin de considération et de discours. On connaît cet épisode de la vie du curé d'Ars. Il voyait chaque jour l'un de ses paroissiens venir à l'église et demeurer en silence devant le tabernacle. Un jour, il lui demanda ce qu'il disait au Seigneur. « Rien, répondit le brave homme, je l'avise et il m'avise. » Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse, qui n'était nullement petite, magnifique fleur qui s'est épanouie 3 siècles plus tard dans un couvent issu de la réforme de Thérèse d'Avila, a connu bien sûr ce type de prière. « Pour moi, écrivait-elle, la prière est un élan du cœur, c'est un simple regard vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. » À cette oraison de recueillement, de quiétude, on y parvient normalement au bout d'un certain temps par un don de Dieu. Il faut cependant chercher à mettre en pratique certaines attitudes. La première est le sérieux avec lequel on s'efforce de se donner à Dieu. Le seul moyen pour que Dieu se donne à nous, ce qui est le but de l'oraison, c'est que nous nous donnions totalement à lui. Si nous gardons dans notre vie un domaine réservé, quelque chose que nous ne voulons pas abandonner à Dieu, un défaut par exemple, même petit, auquel nous consentons délibérément, sans rien faire pour nous en corriger, ou une désobéissance consciente, ou un refus de pardonner, cela stérilise la vie d'oraison. Et et in meditatione mea exardescit inis, psaume 39:4. Et dans ma méditation s'allume le feu. C'est pour cela que tu vas prier, pour devenir foyer ardent, flamme vive qui donne chaleur et lumière. Saint José Maria Escriva, chemin numéro 92. Telle était Sainte Thérèse d'Avila, une vie brûlante d'amour où la contemplation, loin d'être un obstacle à son intense activité, lui permit de réaliser une tâche immense, d'être un foyer ardent, une flamme vive qui donne chaleur et lumière. Et c'est ainsi que l'a représenté le Bernin dans la sculpture de l'église de Sainte-Marie de la Victoire à Rome. Le plus grand artiste du Sei Santo n'eut pas la chance de la connaître personnellement, mais il capta le flon de son âme, il la représenta dans son extase et dans sa beauté transfigurée par la prière.
Jesus, in sun, wind, bird.